Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Gilles Secaz. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Martha Cook, une claveciniste qui pratique de longue date l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Elle vient nous présenter un enregistrement de l'art de la fugue paru en septembre 2015 au label Passacaille. Cette œuvre est interprétée comme répondant à un programme qui révèle le caractère de méditation que lui accordait Bach et sa spiritualité. Œuvre d'ailleurs que l'on peut mieux comprendre grâce au livre qu'elle nous présente aujourd'hui, L'art de la fugue, une méditation en musique, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Martha Cook, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, peut-être pourriez-vous nous expliquer tout d'abord quand vous avez commencé à vous intéresser à l'art de la fugue.
Depuis une douzaine d'années, je travaille sur cette œuvre. C'était d'abord dans un but de le donner en concert, tout simplement.
Oui.
C'était déjà un grand travail parce que l'œuvre est longue et très difficile pour les doigts. Et j'ai été plongée dans ce travail quand j'ai, par hasard, pu faire un rapprochement entre les pièces de l'art de la fugue et un passage de l'Évangile de Luc.
Alors ça, c'était un éblouissement, je dirais.
C'était quelque chose qui m'avait énormément étonnée parce que Bach lui-même n'en a jamais parlé. Il n'y a aucune trace dans l'historiographie. Et c'était une découverte qui me troublait d'autant plus que les correspondances de la prosodie de ces versets du chapitre 14 de Luc et la musique se mariaient parfaitement. Et que les versets donnaient un aspect allégorique à toutes les fugues, la série des 12 contrepoints de l'art de la fugue.
Donc il vous a fallu de longues années pour arriver en quelque sorte à cet ouvrage que vous venez de publier et qui vraiment est très apprécié de tous les grands musiciens, je dirais. Musicologue.
L'ouvrage est en train d'être découvert pour le moment parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc,
oui. Mais déjà, je sais que beaucoup de gens sont très heureux de pouvoir l'avoir et le lire avec beaucoup d'émotion.
J'ai eu des échanges avec des musiciens qui sont très motivés parce que cette vision nous ouvre une porte vers l'interprétation d'une œuvre qui a toujours été vue comme très abstraite, voire purement pédagogique. Et soudain, nous pouvons mettre des images, en quelque sorte, sur cette musique qui est effectivement un monument de science musicale, mais qui jusqu'à présent paraissait assez impénétrable.
Alors justement, Jean-Sébastien Bach, que vous connaissez si bien, pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit il est quand il compose l'art de la fugue?
Il est maître de l'école Saint-Thomas et directeur de la musique de la ville de Leipzig depuis l'année 1723. Et il commence à travailler sur l'art de la fugue probablement vers la fin des années 1730. Mmh. À cette période-là, il est très, très respecté, mais il est un petit peu délaissé, on va dire, par la mode de la musique qui se tourne beaucoup, avec beaucoup de délectation, vers l'opéra et vers des formes de musique beaucoup plus, en quelque part, directement, qui saisissent les émotions de manière directe. Oui. Alors que lui, tout son langage est basé sur l'allégorie musicale.
Oui, c'est ça. Ses œuvres, finalement, sont abstraites. Et d'ailleurs, peut-être que l'art de la fugue serait une sorte de réponse à ses détracteurs.
On peut l'imaginer. Il est vrai qu'à la fin des années 30, il fait l'objet d'une polémique dans la presse musicale qui était un phénomène assez nouveau de l'époque. Donc il y a des journaux pour des amateurs cultivés qui commencent à paraître, qui parlent des compositeurs et de leurs œuvres. Et il y a un de ses anciens élèves, un dénommé Scheiber, qui écrit à son sujet que sa musique est pedante, qu'elle est trop complexe, que ça ne touche pas les émotions, que de toute façon la science du contrepoint est surannée, que ça n'intéresse plus personne. Et c'était une polémique assez venimeuse et qui a suscité des réponses. Il y a eu toute une querelle pendant bien deux ans dans la presse, au sujet de Bach et de la valeur de sa musique. Donc, certains commentateurs ont supposé que l'art de la fugue, entre autres, pouvait être une réponse à ces critiques pour établir la valeur suprême du contrepoint comme la forme la plus élevée de la musique de la composition.
Et on peut peut-être écouter justement un morceau à cet effet.
Oui, avec plaisir. Alors, on va écouter d'abord un canon, puisque dans l'art de la fugue, il y a 14 fugues et 4 canons. Les canons sont des pièces à deux voix totalement imitatives, c'est-à-dire la deuxième voix commence à un petit délai après la première et est contraint d'imiter note pour note la voix qui l'a précédée. Donc, c'est une forme d'écriture extrêmement exigeante. Et Bach en a fait des pièces merveilleuses qui sont des pièces virtuoses pour le clavecin à plein titre. Et nous allons entendre un canon à l'octave.
Un canon à l'octave. Alors, on a également dit que l'art de la fugue était une œuvre pédagogique. Alors, qu'en est-il vraiment ?
C'est difficile de savoir dans la mesure que Bach décède avant que l'art de la fugue ait donné au public. Il a commencé les travaux de préparation pour une édition, mais il meurt avant que l'édition a pu être réalisée. L'édition est réalisée en 1751. Par un de ses fils et un ancien élève. Et dans cette édition, il n'y a aucune dédicace. On ne sait même pas si le titre, Die Kunst der Fugue, l'art de la fugue, est de Bach. Oui. Je ne sais pas si c'est lui qui donc, voulait l'appeler comme
tout,
ça.
Ce n'est pas du tout une œuvre pédagogique.
Mais on ne sait pas ses intentions. Il ne nous a rien dit.
Ouais.
Toute sa musique pour clavier a un aspect pédagogique parce que dans ses autres publications, il a toujours une petite préface où il dit « c'est une récréation pour l'esprit, pour les gens qui souhaitent s'occuper utilement avec la musique ». Mais dans l'art de la fugue, il n'a rien dit. Ce qui fait penser que c'est une œuvre pédagogique et que les fugues et les canons sont extrêmement variés et démontrent toutes les façons de traiter une thème, parce que l'art de la fugue traite tout le long un thème unique.
Est-ce seulement au clavecin, puisque vous êtes claveciniste, que l'on peut jouer l'art de la fugue?
Bien sûr que non, c'est une œuvre qui est tellement fascinante que beaucoup de musiciens se sont laissés tenter par l'œuvre. Alors, il y a eu des orchestrations, il y a eu des versions pour quatuor à cordes, il y a une très belle version avec un ensemble de cuivres.
Ah oui.
Il y a Swingle Singers,
ah oui,
c'est assez chouette. Il y a des organistes aussi qui pratiquent à l'orgue. Mais mon ancien maître, Gustav Leonhardt, avait écrit vers le milieu des années 50 une petite essai sur l'art de la fugue où il démontre, de par l'écriture, que c'est vraiment une œuvre qui est conçue pour le clavecin d'après l'étendue des notes et la façon dont c'est agencé, on va dire, sous les doigts. Que c'est une écriture qui est caractéristique du clavier et pas tellement d'un orgue où on a aussi un pédalier pour les notes graves.
Donc, il faut vraiment un instrument à clavier.
Mais on ne peut pas dire qu'il faut, mais tout le monde a droit d'interpréter la musique de Bach. C'est tellement universel, mais disons, je trouve que la musique se rend le mieux au clavecin parce qu'il y a une transparence et il y a une égalité entre les voix qui permet d'entendre tout ce qui se passe. Et c'est ça qui rend la chose très belle.
Oui. Alors j'en arrive maintenant à la composition, à l'ordre des pièces. À quoi ressemble le thème? Et ça va être une de vos grandes découvertes.
Eh bien, la composition et l'ordre des pièces, il faut savoir que Bach nous a laissé un manuscrit autographe qui a été exceptionnellement conservé dans sa famille. Nous l'avons encore aujourd'hui, c'est à la Bibliothèque de Berlin. Et dans ce manuscrit, on trouve 12 fugues et 2 canons. Et quand j'ai commencé à travailler l'œuvre avec le but de la donner en concert, j'avais adopté l'ordre de ce manuscrit par goût parce que je trouvais que c'était un ordre qui était, on va dire, dramatiquement ou rhétoriquement très convaincant.
Oui.
En tant qu'interprète, jamais enchaîner les pièces dans cet ordre-là. Il faut savoir que l'édition, qui est donc posthume, change l'ordre des pièces. On voit certaines pièces nouvelles que Bach a eu le temps de rajouter, mais surtout l'ordre du recueil est bouleversé. Et pour moi, c'est ce qui donne ce côté, on peut dire, un peu catalogue de formes musicales plutôt qu'une œuvre cyclique à interpréter. Donc, d'abord, l'ordre du manuscrit qui privilégie donc ce discours musical est pour moi un préalable pour la découverte que j'avais faite, qui était donc la correspondance entre cette série de fugues et les versets 27 à 35 du chapitre 14 de l'Évangile de Luc.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec Martha Cook et l'art de la fugue. J'aimerais bien, Martha Cook, que vous nous commentiez ce morceau que nous venons d'entendre.
Le morceau qu'on vient d'entendre est un des premiers contrepoints dans le premier groupe de ce qu'on appelle les fugues simples. On entend encore le thème unique de tout l'art de la fugue, cette fois exposé 14 fois et avec un contre-champ qui adopte un rythme long, bref, qui fait penser presque, moi, à un cheval qui galope.
Ah, oui.
Et qui signifie pour moi une volonté d'arriver au but.
Oui, quand vous le jouez, vous pensez à ça.
Je pense à ça, oui.
Ah, c'est magnifique.
Ça m'évoque cette image-là, oui, tout à fait. Et il faut savoir que cette fugue présente ce qu'on appelle le grand thème de l'art de la fugue, toujours dans sa forme droite, mais que le thème est parfois présenté dans l'œuvre dans sa forme inversée. On appelle rectus ou inversus.
Oui.
Et les fugues qui utilisent la forme inversus sont souvent un peu plus méditatives, un peu plus tristes, on pourrait dire, que les fugues qui utilisent la forme droite.
Alors ça, je crois qu'on le trouve dans un autre morceau. On va en écouter quelques bribes, à savoir le choral.
Le choral, un choral qui est une composition de Martin Luther qui adorait la musique et qui encourageait la pratique du chant lors du culte, et qui a composé plusieurs morceaux pour les dévotions domestiques ou à l'église, et dont ce choral qui s'appelle « Austifernot schreich zu dir, dans ma grande détresse, je vous appelle ».
Nous l'écoutons. Alors donc, votre grande découverte, c'est que derrière cette musique, il y aurait une musique cachée derrière les notes. Et donc, c'est cet évangile de Luc auquel vous avez fait allusion un petit peu tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez vraiment cette correspondance D'accord. entre les versets et les contrepoints de l'art de la fugue.
D'accord. Eh bien, on peut parler d'abord de ce fameux thème.
Oui.
Que je vais vous chanter, je ne chante pas très bien, mais qui fait Ré, La, Fa, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré. Donc, c'est le grand thème de l'art de la fugue. Et sur ce thème, on peut imaginer les mots donc, du verset 27 du chapitre 14, je vous l'ai dit d'abord en français, « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Dans l'allemand de la traduction de Luther, ça donne « Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt. » Et alors, par beaucoup d'images musical, ces mots sont calqués très directement sur ce thème. Je vous donne juste un exemple. Le mot « Kreuz », la croix, tombe dans ce thème sur une note qui est une note altérée, c'est un do dièse, donc qui est ce qu'on appelle la sensible du ton et en ré mineur. Donc c'est une note qui est très très importante, on va dire, qui a une qualité dynamique pour l'avancement de l'harmonie de l'écriture. Et il se trouve que ce mot Kreuz en allemand veut dire la croix de la crucifixion, mais veut dire aussi le signe dièse.
Ah oui.
Donc là, on a une correspondance très très directe.
Ah oui. Alors là, vraiment, c'est quelque chose de... C'est, pour vous, c'est une grande découverte, et pour tous les musiciens aussi, j'imagine. Mais
disons, ça c'est déjà un indice qui est assez frappant, et quand on regarde le thème aussi un peu plus loin, la fin de ce thème avec les petites notes rapides, sol, fa, mi, ré,
ah oui.
Und mir nachfolgt, et ne me suis pas. C'est l'idée de suivre et d'une idée dynamique avec des notes rapides. Le thème met en musique vraiment, vraiment ses idées de façon très claire.
C'est vraiment un génie. Si on n'en était pas convaincu, eh bien, de vous entendre, c'est tout à fait... c'est ce que vous montrez, en quelque
c'est
sorte.
C'est la technique que Bach utilisait habituellement quand il avait un texte à mettre en musique dans ses cantates et ses passions. Sa démarche est toujours une démarche allégorique de ce type. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu dans sa musique vocale. Et c'est ce qui m'a permis de voir le rapprochement avec l'art de la fugue. Puisque c'est la technique de Bach dans ce sens est quelque chose qu'on voit et qu'on entend très très bien quand on étudie ses cantates et ses passions.
Et d'ailleurs, quand ça se termine, on se demande si c'est terminé.
C'est vous faites allusion au dernier
oui,
des contrepoints
qui est
la dernière fugue qui est inachevée, qui fait poser beaucoup de questions aux musicologues depuis très longtemps. On se demande si le dernier feuillet a
oui.
été perdu, si Bach l'aurait peut-être volontairement laissé ainsi. Il y a eu beaucoup d'échanges à ce
Mais
sujet.
Pour vous, c'est assez clair, d'ailleurs.
Pour moi, dans l'optique de cette mise en musique des versets de l'Évangile de Luc,
oui.
je constate quelque chose de très... très marquante, c'est la fin du verset 35 qui est une exhortation du Christ puisqu'il s'agit d'un sermon. Ces versets
oui.
sont un sermon qui comprennent, on va dire, une devise et trois paraboles. Et à la fin de la troisième parabole, il y a une exhortation qui est que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Oui, c'est pas la peine d'aller plus loin. En quelque
et il se trouve que ces mots...
Oui.
Wer Ohren hat zu hören, der höre, donc dans l'allemand de Luther, tombe sur le troisième thème de cette fugue inachevée, cette troisième thème qui est célèbre pour mettre en musique les notes si bémol, la, do, si, qui en notation musicale allemande forment les lettres B, A, C, H.
Ah là là.
Donc du coup, Bach devient celui qui a des oreilles pour entendre.
Ah oui.
Ce qui est une image très frappante. Et une fois qu'on a eu cette image-là, on se dit, mais est-ce vraiment la peine d'aller plus loin?
Mais oui, c'est ça. Donc, c'est pas la peine.
Et il y a une inscription qui a été rajoutée au manuscrit de Bach,
oui.
de cette dernière fugue, qui dit, ici, le compositeur est mort. Et on pense que cette notation a été rajoutée par son fils, Carl Philipp Emanuel. Et on a toujours pensé on a longtemps pensé qu'il était mort subitement sur sa feuille. Alors on sait aujourd'hui que c'est faux, qu'il avait achevé autre chose après ça. Et le manuscrit est très propre, donne aucun signe de cécité. On sait qu'il a été aveugle à la fin de sa vie, donc ce n'est pas possible qu'il est mort littéralement
mort,
sur cette feuille de papier. Et moi, j'avance l'idée que c'est une description de ce qui se passe dans la musique, que la musique ne finit pas, mais est abruptement coupée, et que c'est une mise en image de sa mort en tant que compositeur.
Ah oui, c'est vraiment des recherches extraordinaires.
Ce qui irait avec cette idée de, justement, d'ode funèbre utilisant un thème qui rappelle le choral chanté aux obsèques de Luther.
Ah oui. Alors... la question quand même que je me pose, est-ce que tous ces travaux, pour vous, ont changé votre façon d'interpréter l'art de la fugue?
Bien sûr.
Oui, c'est ce que
j'imaginais. C'est un approfondissement, c'est une confirmation d'une intuition, quelque chose qui était intuitif au départ, qui est maintenant confirmé par toute cette réflexion et recherche, et bien sûr, ça
s'enrichit. Et je dirais pour nos auditeurs que je connais Martha Cook depuis longtemps, et que maintenant que ce livre est publié, elle a atteint une sorte de sérénité, et c'est un bonheur de la voir maintenant, parce qu'elle est vraiment sereine. Je vous remercie beaucoup, Martha Cook, d'avoir accepté notre invitation. Et chers auditeurs, je vous rappelle que vous pourrez nous réécouter sur notre site internet www.radiograndciel. Alors, nous allons terminer. Vous avez choisi...
Je propose qu'on se quitte sur le début, justement, de ce fameux contrepoint inachevé, le dernier contrepoint de l'art de la fugue.
Un grand merci à vous.